merci d'être là, c'est cool. Pas de salutation à l'enregistrement, il faut que je la refasse. Bienvenue à ceux qui nous écoutent en enregistrement, donc. Quatrième atelier biblique de notre nouvelle série. Le premier a touché essentiellement à la diversité des formats ecclésiaux, mais à la primauté du service, quel que soit le format ecclésial dans lequel on se trouve. Dans le second atelier biblique, Paul Robert nous a encouragé à revoir l'histoire du réveil de Genève. Moi, j'ai noté deux mots qui me restent de cette soirée, c'est des racines et du zèle. Et puis, il y a 15 jours, c'est Michel Serex qui nous parlait de l'histoire de l'EM. Et là aussi, j'ai noté quelques mots-clés comme audace, fidélité, des valeurs, des choses que nous aimerions poursuivre aujourd'hui encore, même si probablement les formes doivent changer, le fond reste le même. Je vous rappelle mon souhait de temps de partage. Alors, je ne suis pas très friand, moi, des petits groupes de discussion, mais si vous voulez bien, on peut, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, et puis on ouvrira des temps d'échange au cours de cette soirée. Donc, de la place pour les questions et pour l'échange. Ça va pour vous ? Et puis, je vous rappelle, si ça vous intéresse, non seulement donc l'enregistrement est disponible, mais des notes complètes, bien sûr. J'aimerais prier. Cher Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour tout ce que tu déploies dans nos vies et au cœur de ton Église. Merci pour notre Église locale, merci pour son histoire, merci pour son identité, merci pour son témoignage, sa pertinence. Tu sais quels sont nos défis, Seigneur, et je te prie de nous accompagner dans ce que tu attends de nous. Fais-nous du bien au travers de la réflexion de ce soir. Construis, encourage, vivifie notre foi, notre attachement à toi, notre vision de l'Église. On a des fois besoin d'être renouvelés dans ce sens. Et je te prie de nous visiter par ton Saint-Esprit ce soir. Et puis je te remercie pour mes frères et mes sœurs et je te prie de nous aider à avancer ensemble. Dans le nom de Jésus, amen. Donc pour ce soir, on va évoquer un peu la question de l'équipe pastorale, des conseillers et des conseillères et du rôle de l'Église quand nous essayons d'œuvrer tous ensemble. Il sera essentiellement question de vocation, de formation, de responsabilité, d'autorité et de dons et ministères. C'est les points essentiels que j'aimerais voir, voilà, en quelques minutes, hein, on ne va pas aller tout au fond des choses, bien que vocation, formation, responsabilité, autorité, dons et ministères. Alors à Mérin, nous avons l'honneur et le bonheur d'une collaboration que je trouve étroite entre l'équipe pastorale, donc Célina et moi, et puis notre conseil. Et ça, depuis le début où je suis arrivé, et je sais que c'était déjà le cas bien avant que j'arrive. Mais en 2017, ce que j'ai découvert, c'est que la collaboration entre les pasteurs et le conseil était une collaboration étroite. Elle a évolué depuis 2017. Je trouve qu'on a un conseil aujourd'hui qui est peut-être un peu plus pastoral qu'il ne l'était au début, quand je suis arrivé, où les défis étaient peut-être aussi un petit peu plus administratifs. Mais en tous les cas, nous avons l'honneur et le bonheur de cette collaboration. Et je crois que c'est quelque chose à chérir, à protéger et à valoriser. Une bonne partie de notre travail, pas tout, mais une bonne partie de notre travail se fait ensemble. Par exemple, quand nous préparons le conseil, l'ordre du jour pardon, du conseil, généralement, je crois, allez, 9 fois sur 10 au moins, Johan, qui préside le conseil, nous contacte, Célina et moi, pour savoir comment nous pouvons compléter l'ordre du jour, s'il faut le modifier. Et je trouve qu'on travaille vraiment bien ensemble. Donc déjà, un premier constat, c'est que pasteur et conseiller-conseillère travaillent ensemble et que c'est, à mon sens, pas aussi différent que ça, d'être pasteur ou conseiller, d'être professionnel ou laïque. J'y reviendrai un peu. Je vous donne un exemple, c'est celui du secret professionnel, on en reparlera dans 15 jours. Mais spécifiquement, le secret professionnel, qui est très encadré par la loi suisse, est dans le cadre de l'Église, un secret professionnel qui peut être partagé. Ce n'est pas obligatoire de le partager, à de rares exceptions, mais il peut être partagé. Et là, je trouve que quand le secret professionnel est partagé, on peut dire qu'on tire tous à la même corde, qu'on travaille dans le même sens. Et puis, pour le choix des uns et des autres, que ce soit les conseillers et conseillères ou l'équipe pastorale, je pense que la plupart d'entre vous, sinon tous, vous savez que des procédures claires existent à Meyrin. La désignation d'un conseiller ou d'une conseillère ne se fait pas n'importe comment. La nomination, la recherche d'un pasteur, d'une pasteur, ne se fait pas n'importe comment, au petit bonheur, la chance. C'est très encadré. Comme dit, je pense que la plupart d'entre vous le savez, hein, mais généralement, donc, nous, pas généralement, nous désignons, le colloque désigne un GRC, un groupe de recherche du conseil, ou un GRP, un groupe de recherche du pasteur. Le discernement est exercé, de nombreux entretiens ont lieu, et les choses se décident finalement et heureusement en colloque. Le colloque est souverain sur ce type, l'Assemblée générale est souveraine sur ce type de décision. Donc pour le choix des uns et des autres, nous avons à Meyrin, comme dans d'autres églises j'espère, des procédures très claires, assez contraignantes. Je me rappelle en 2017, quand nous étions encore en discussion avec vous, moi j'étais étonné de la procédure et de la durée de la procédure. On trépignait de notre côté, et puis vous preniez votre temps, et vous aviez raison de le prendre. Et plus j'avance dans l'heureuse collaboration avec vous, plus je trouve que ces procédures sont nécessaires. Alors au moment d'appeler un pasteur, ou au moment d'élire un membre du conseil, il est courant que nous évoquions, parce qu'ils sont statutaires aussi, deux textes de la Bible, où l'apôtre Paul donne à ses collaborateurs des instructions pour la nomination des responsables. Et ces deux textes, que je vais lire avec vous, nous accompagnent dans les procédures de nomination. Ils sont assez semblables, ils sont les deux dans des épîtres dites pastorales. Le premier, 1 Timothée 3, les versets 1 à 7. 1 Timothée 3, les versets 1 à 7. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite assumer la charge de dirigeant dans l'Église, il aspire à une belle tâche. Il faut qu'un responsable d'Église soit irréprochable et fidèle à sa femme. Il doit faire preuve de modération, être équilibré et respectable, hospitalier et capable d'enseigner, qu'il ne soit ni buveur ni agressif, mais bienveillant et paisible, qu'il ne soit pas attaché à l'argent, qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu. qui ne soient pas récemment convertis. Sinon, ils risqueraient de s'enfler d'orgueil et de finir par être condamnés comme le diable. Il est aussi nécessaire qu'ils méritent le respect de ceux qui n'appartiennent pas au Christ, afin qu'ils ne soient pas méprisés et qu'ils ne tombent pas dans les pièges du diable. Et puis à son autre compagnon Tite, Paul écrit ceci en Tite 1, les versets 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète afin que tu achèves d'organiser ce qui doit l'être encore et que tu établisses des responsables dans chaque ville selon les instructions que je t'ai données. Un responsable doit être irréprochable, un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance et qu'on ne puisse les accuser ni de comportement malfaisant ni de rébellion. En effet, un responsable d'église doit être irréprochable puisqu'il s'occupe des affaires de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni agressif, qu'il ne recherche pas les gains malhonnêtes. Au contraire, il doit être hospitalier et ami du bien. Il faut qu'il soit équilibré, juste, attaché à Dieu et maître de lui. Il doit être fermement attaché à la parole qui est digne de confiance, celle qui est en accord avec ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera capable d'encourager les autres par le véritable enseignement et de démontrer leur erreur aux personnes qui le contredisent. Voilà, deux textes fort, qui accompagne chez nous un processus de sélection, que ce soit celui d'un ou d'une pasteur ou d'un ou d'une conseillère. Alors, ce ne sont pas les seuls passages qui permettent à une église d'évaluer une candidature, d'évaluer un ministère, ou même à un responsable de s'auto-évaluer. Il faudrait tenir compte de l'enseignement de Jésus en plus, de son exemple, en particulier Jean 13, la nécessité du service. Il faudrait tenir compte d'autres textes dans le Nouveau Testament et de nombreux modèles de l'Ancien Testament. Ça nous permettrait d'être plus complet. Donc une synthèse s'impose, et cette synthèse, je vous la propose en parlant donc de vocation, de formation, de responsabilité et d'autorité. Et je précise que mes amis du Conseil interviennent quand ils veulent, vous aussi bien sûr, mais mes amis du Conseil interviennent quand ils veulent. La vocation, ou l'appel de Dieu, c'est la même chose. La notion de vocation ou d'appel de Dieu, c'est quelque chose qui est absent, complètement absent, des épîtres pastorales. La vocation, l'appel de Dieu, vous ne la trouvez pas sous la plume de l'apôtre Paul, jamais, ça n'apparaît pas. Par contre, l'appel, la vocation, c'est quelque chose de très présent dans l'Ancien Testament. Abraham, appelé, Moïse, appelé, Gédéon, appelé, David, Ésaïe, Jérémie, Amos, appelé. La liste est longue de personnes qui ont exercé un ministère d'envergure suite à un appel très direct de la part de Dieu. Dieu les appelle, ils y vont. C'est parti. Mais c'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout dans les épîtres pastorales. Dans le Nouveau Testament, plus généralement, on peut penser à l'appel des 12, on peut penser au chemin de Damas, où Paul, lui, est appelé. On peut penser à cet épisode assez touchant du livre des Actes où Paul et Barnabas sont mis à part, appelés. Ils reçoivent une vocation. Mais quand on y regarde de plus près, il apparaît que de nombreuses autres personnes se trouvent dans des positions de responsabilité dans l'œuvre de Dieu par des voies qui sont beaucoup moins exceptionnelles qu'un appel massif et irrésistible de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les rois et les prêtres, les deux, hein, les rois et les prêtres, sont appelés, vocationnés, de façon héréditaire. Ils sont appelés à être fidèles dans l'exercice d'une charge qui leur est dévolue d'office. C'est quelque chose de mécanique automatique. Dans Actes 6, si je prends le Nouveau Testament, sept hommes sont désignés par un vote de l'Église pour occuper une place stratégique dans l'organisation de l'Église. Pas d'appel. Ils ne sont pas appelés. Il n'y a pas de vocation. Ils sont désignés. Ou encore, pour rebondir sur le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul remarque Timothée, prend attention à Timothée, qui lui semble être quelqu'un de valeur, et le prend avec lui pour le former et pour le mettre au travail. Mais nulle part n'apparaît la question d'appel ou de vocation chez Timothée. Jamais. Alors, ceci pour dire que vos responsables, vous qui êtes responsables, ou qui le serez peut-être, vous auriez tort d'être complexés si vous n'aviez pas, ou si vous aviez l'impression, pardon, de n'avoir pas reçu de vocation particulière qui viendrait d'en haut. Pas de complexe. Parce que parfois, la vocation d'en haut, elle passe en fait par des hommes et des femmes d'en bas. Permettez-moi de l'illustrer avec un témoignage personnel. Je suis assez réticent au témoignage personnel en général, mais je vous donne une petite illustration. Quand Heidi et moi, nous avons souhaité nous former à l'Institut biblique de Genève, en 97, nous étions partis pour y aller une année, découvrir, améliorer un petit peu nos connaissances. Voilà, on trouvait que c'était un peu l'edge là où on en était. Et puis au cours de l'année, il y a des gens qui sont venus nous taper sur l'épaule en disant « on pense que vous devriez aller plus loin. Ce serait bien de continuer au moins la formation. Nous, on pense discerner chez vous tel ou tel don, talent, ministère. » Mais pour être tout à fait honnête, il n'y avait pas chez nous un appel ou une vocation irrésistible de la part de Dieu. Cet appel, il est passé par des hommes et des femmes d'en bas. Donc l'essentiel pour l'appel ou la vocation, ce n'est pas la crise existentielle. Ce n'est pas le coup de foudre sentimental. Mais c'est le discernement d'une voix qui s'ouvre à nous et dont nous sommes convaincus que de ne pas nous y engager dans cette voie équivaudrait à désobéir à Dieu. Devant le buisson ardent ou dans le temple de Jérusalem l'année de la mort du roi Ozias ou sur le chemin de Damas, ce discernement est également nécessaire pour qu'un Moïse accepte l'appel, pour qu'un Ésaïe dise « Je suis prêt, envoie-moi » ou qu'un apôtre Paul dise « Je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel. » Il leur fallait du discernement. Ça va ? Si loin.
Vocation peut venir par des gens. Dieu utilise, Puis je pense que Dieu utilise beaucoup de moyens pour appeler des gens. Mais dans le... Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, de jeunes, etc., qui parlent de leur... de ce qui les a motivés à partir en mission, en service. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que ça... La manière dont ils racontent les choses, ça dépend aussi beaucoup du milieu dont ils viennent.
Oui.
Les gens qui viennent d'église où on parle tout le temps, où on met en valeur la vocation, ils parlent dans ces termes, que Dieu les a appelés, qu'ils ont reçu un verset, etc. Puis il y en a d'autres qui viennent d'autres églises où on parle moins de ça. Mm-hmm. Et puis ils n'expriment pas la vocation dans ces termes. ils évoquent la conviction qui est arrivée par différentes rencontres de cette volonté de servir, de découvrir, d'aller à la rencontre de l'autre. Puis finalement, dans la réalité, j'ai l'impression que c'est juste la même chose, mais qui est racontée différemment. Puis que c'est quand même dans tous les cas Dieu qui appelle les personnes, quelle que soit la manière dont elles racontent ce qu'elles ont vécu.
Voilà. Ouais, ouais, merci. Sur la notion d'appel ou de vocation, deux mots encore, pour dire qu'il me semble très important, essentiel même, qu'une église reconnaisse un appel ou une vocation. Quand une église reconnaît un appel ou une vocation, y compris pour un départ en mission, hein, c'est aussi votre travail dans le groupe mission, eh ben c'est un garde-fou. C'est un garde-fou contre toute forme d'illuminisme ou contre tout désir de se mettre en avant. L'Église reconnaît l'appel ou la vocation. Et en même temps, c'est extrêmement rassurant pour la personne appelée que l'Église reconnaisse sa vocation. Pour moi, c'est indispensable pour l'exercice d'un ministère, parce que le pasteur, le conseiller, le ou la responsable ont besoin du consentement de ceux et celles à qui ils s'adressent. Alors je sais que dans l'Ancien Testament, on a quelques exemples de prophètes isolés, rejetés. Mais même Jérémie, qui est le prophète isolé par excellence, même Jérémie qui exerce un ministère très solitaire, n'était pas tout seul. Même lui, on connaît son secrétaire, auquel il fait référence régulièrement, il s'appelle Baruch, et on connaît son disciple. Jérémie a un disciple qui s'appelle Ebed-Melech. Donc même Jérémie, qui est un franc-tireur, on peut le dire, il n'est pas tout seul. Dans le Nouveau Testament, s'il y en a un qui pouvait se passer à quelque part de la reconnaissance des tiers, ben c'était l'apôtre Paul, parce que lui, il appelle la vocation, il l'a eu pleine face. Mais, pour ne pas que son travail soit compromis, et pour collaborer utilement avec les autres apôtres, il est allé chercher leur appui à Jérusalem. Il n'a pas voulu faire sans eux. Et à plusieurs reprises, dans le Nouveau Testament, la prière et l'imposition des mains viennent couronner la désignation de quelqu'un pour un nouveau service. Donc, même dans les cas de personnes exceptionnelles, auxquelles je crois de moins en moins, hein, depuis Paul, mais même dans ce cas-là, ils ont besoin de solidarité concrète avec les autres. Suivant les unions d'Église, cette reconnaissance à laquelle j'appelle se fera dans l'Église locale ou par l'intermédiaire de l'union elle-même. Chez nous, ça se fait au sein même de l'Église, comme dit en plusieurs étapes, constitution d'un GRC, d'un GRP, différents entretiens, c'est un procédure exigeant, hein. Chantal t'en a fait partie, c'est exigeant, hein. Colloque, ça se prépare, ça discute, on a un vote, et puis c'est pour 3 ans seulement, pourrait-on dire, et puis peut-être qu'on remet l'ouvrage sur le métier, puis peut-être pas. Chez nos amis de l'EPG, c'est très différent. Ça se fait par une structure en dehors de l'église locale. Et la reconnaissance du ministère se fait à Saint-Pierre, normalement après 5 ans de ministère pastoral. Philippe avait obtenu une dérogation, Philippe Gola. Ça va sur l'appel, la vocation ? Paul Robert.
On parle de personne.
Ouais.
Par rapport à l'église locale, donc je parle de chez nous.
Mm-hmm. Merci.
Alors, par rapport à notre église locale, tu parles de reconnaissance des ministères, c'est des personnes, et je pense qu'il faut aussi reconnaître des groupes qui travaillent.
Ouais.
Je prends un exemple, le groupe mission, on m'avait demandé d'essayer de le faire repartir, de le recréer quelque part, qui était complètement en panne, et on est parti, on a trouvé une équipe et tout, et à un moment donné, j'ai trouvé le conseil. Et j'aurais dit, mais comment vous nous reconnaissez dans notre mission d'accompagnement, qui était quand même une question importante, d'appel, etc., pour les plus jeunes, etc. Et j'ai demandé qu'il y ait à un moment donné un culte, un moment de reconnaissance et de prière pour le groupe mission qui était là. Chose qu'on pourrait renouveler, puisque maintenant on a des nouvelles personnes, mais c'est vrai qu'en même temps, on a peur d'être un peu gonflé, de dire, on demande quelque chose. Et je pense qu'il est très important que ce soit pour ce groupe-là, je prends cet exemple que je connais, que ce soit pour un groupe d'évangélisation, que ce soit pour une équipe qui prépare, je ne sais pas quoi, l'école du dimanche, etc., qu'il y ait une reconnaissance qui aille plus loin que simplement « c'est sympa, merci beaucoup, allez-y, on est avec vous ». Si à un moment donné, tu parles de l'imposition des mains, alors on ne sait pas trop ce que c'est, nous, l'imposition des mains. On ne sait pas s'il faut mettre sa main, si on la met juste sur l'épaule, on ne la met pas. Enfin, ça, c'est des choses qu'on devrait une fois pour toutes débloquer, à mon avis. Mais voilà. Alors, je trouve qu'il y a les personnes et puis il y a des groupes, je parle dans l'organisation de notre Église, qui doivent être reconnus et envoyés de manière à ce qu'ils puissent faire leur travail de manière reconnue. Et quand il, voilà, j'ai tout ce que j'avais à dire.
Merci, je te rejoins là-dessus. Je pense que les groupes de travail, effectivement, doivent être reconnus. Il me semble que la plupart du temps, ils le sont. Mais il peut vite y avoir des changements. On oublie, l'Église se renouvelle aussi. Ou des nouveaux groupes de travail. Et sans trahir de secret, j'ai eu notre président du conseil tout à l'heure, Johan, au téléphone, qui, pour des raisons pro, ne pouvait pas être là ce soir. Mais il me disait... si lui, il avait des trucs à partager, ce serait justement la difficulté des fois à déléguer et à savoir jusqu'où tu délègues et quel processus accompagne ou quelles étapes accompagnent le processus de délégation. Quand tu délègues, là, on parle par exemple d'un groupe qui va réfléchir à l'aménagement du foyer, peut-être de la nouvelle scène. Qu'est-ce qui accompagne le processus ? Ou si je prends très concrètement aujourd'hui la commission sociale, vous savez qu'il y a une commission sociale à Mérin qui est passablement sollicitée. Vous savez de qui elle est formée ?
Par des gens qu'on ne voit presque jamais.
Voilà.
Ça me pose un problème. Mais j'ose pas en parler.
Ben, on a dit qu'on n'avait pas de tabou. Donc je peux te rejoindre là-dessus. Voilà. Donc. Par exemple, sur la commission sociale, mais d'autres choses encore. Hein. Ça vaut le coup d'avoir dans des groupes des personnes qui sont reconnues. On le fait quand on nomme en GRC, quand on nomme en GRP. On l'a fait pour le GEAP, hein, l'accompagnement des pasteurs. Moi, je crois que ça vaut la peine de continuer dans ce sens, les personnes et les groupes. Ça va ? C'est cool. Mon deuxième point, c'est la formation. Les références bibliques à la formation des responsables dans l'Église ne sont pas nombreuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si la Bible insiste sur la formation des disciples, on peut penser que cette formation est d'autant plus importante pour des responsables d'Église. Pensons ici à l'apprentissage que Josué a suivi aux côtés de Moïse, ou comme à l'apprentissage que Timothée a suivi aux côtés de l'apôtre Paul. On peut se souvenir aussi des disciples d'Ésaïe, ou des fils des prophètes du temps d'Élie et d'Élisée, deux générations de grands prophètes qui avaient des fils du prophète à leur côté. Ou encore, on peut penser aux 12 qui sont réunis autour de Jésus. On peut même penser à la formation que prodigue Dieu lui-même en faisant passer Moïse par les écoles d'Égypte et puis par 40 années au pays de Madian. Mais des lieux de formation tels que nous les connaissons aujourd'hui, que ce soit la HET Pro ou des facultés de théologie, on n'en trouve pas dans la Bible. Alors j'y viens. Je pense qu'on a une ou deux exceptions. Des lieux de formation au sens d'une HET Pro, d'un institut biblique de Nogent, de la fac de Vaux-sur-Seine d'Aix-en-Provence ou de la fac de Théo de Genève, à proprement dit, on n'en trouve pas directement dans la Bible. Mais Paul, il nous le dit, il a suivi des études rabbiniques au pied de Gamaliel, en docteur de la loi. Acte 22, verset 3. Et puis ensuite de ça, l'enseignement que Paul lui-même a dispensé pendant 2 ans en louant l'école de Tyrannus, on ne sait pas si l'école de Tyrannus était à proprement dit un lieu de formation, mais l'allocation par Paul pendant 2 ans de l'école de Tyrannus a été destinée à tous les disciples plutôt qu'au seul futur responsable. C'était ouvert à tous. Il n'empêche que les cours que Paul a donnés pendant 2 ans dans le bâtiment de Tyrannus, ces cours ont irrigué toute la province d'Asie. Et les responsables d'église que Paul n'a pas lui-même fondés, comme Colosse par exemple, ont certainement été formés à Éphèse, dans la province d'Éphèse, dans cette école de Tyrannus. En ce sens-là, l'exception de l'école de Tyrannus, c'est probablement le cas qui se rapproche le plus de nos instituts bibliques ou de nos facultés de théologie. Cela dit, ce n'est pas parce que les instituts bibliques et les facs de théologie n'existaient pas à proprement dit au fondement du christianisme qu'il ne serait pas légitime de partir de là pour récuser toute formation en dehors de l'église locale. Et je sais que dans certains milieux, pas amérins, mais dans certains milieux, certains s'y emploient. C'est-à-dire que la formation, elle ne doit surtout pas se faire à l'extérieur, elle doit être maîtrisée à l'intérieur. Par exemple, mais pas seulement.
C'était le cas de nos églises.
Merci.
Il y a je ne sais pas, 60, 70 ans, quelque chose comme ça.
Ouais. Vous aviez un lieu de formation par lequel il fallait passer.
C'est qu'un des missionnaires qui est parti au Laos justement il y a très longtemps, il a fait une école biblique à Silo, près de Morges.
Ouais.
Bernard Félix, qui est parti au Laos, ouais. pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais plus la date, il a voulu faire une école biblique à Silo, près de Morges, dans la région de Morges, et les gens de l'époque, ils se méfiaient. C'était pourtant une école biblique tout à fait évangélique.
Ouais.
Hein. Mais voilà, l'idée d'aller faire des études dans une école suscitait la méfiance dans nos églises
ouais.
de l'époque. Voilà.
Ouais.
Juste une remarque, si Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour qu'on s'en serve surtout pas.
Ouais.
Et je trouve quand même que nos églises, la FRAE, la ESR et la FRAE, aujourd'hui en tout cas, sont très ouvertes
oui.
aux différentes écoles.
Oui.
Alors que dans certaines autres unions d'églises, si tu n'as pas fait telle école ou telle école, enfin bref, je ne vais même pas en citer, vous devez deviner, c'était... Même si tu as fait la théologie, l'université, tout ce que tu veux, il faut aller à tel endroit au moins une année pour être dans la norme. Voilà, mais je trouve que dans la fraye, c'est drôlement ouvert. Hein.
C'est ouvert. Moi, pardon.
Je veux aussi donner mon avis.
Vas-y, vas-y.
Parce que je trouve qu'on cloisonne beaucoup trop maintenant. Alors, ces études sont pour ceux-là, ça c'est pour ceux-ci, puis les tel âge à tel âge. Et je trouve que c'est dommage, parce que là, dernièrement, il y a eu une formation à Vevey, je crois. Eh bien, j'aurais bien aimé participer, mais c'est pour des responsables de ceci, cela. Et je trouve que c'est dommage. Alors oui, bon, il faut donner la parole à tout le monde, ou j'en sais rien, mais je trouve que c'est dommage, parce que c'était des lieux de formation pour nous tenir au courant. On n'est pas, là à boire, je ne sais pas, de l'autre source, de l'eau de roche. Et ça, je trouve que c'est dommage que ça soit trop spécifié,
ouais.
les études qui sont données.
Et je crains qu'elles le deviennent de plus en plus.
Oui, malheureusement, je trouve que c'est dommage. Ouais.
L'école d'Éphèse à Tyrannus, elle avait une vocation régionale. Et puis, une importante partie de la formation de Timothée ou de Tite passait plutôt sur le mode de l'apprentissage au contact quotidien d'un apôtre itinérant. La place, donc, je crois, dans nos formations, aujourd'hui encore, pour une dimension intellectuelle qui est indispensable, mais aussi une dimension pratique aux côtés de formateurs, de personnes de terrain expérimentées. Alors, quelle formation est-ce qu'on serait en droit d'exiger des responsables d'église au XXIe siècle ? Les épîtres pastorales, elles demandent que les responsables soient capables d'enseigner, de discerner et de réfuter l'erreur. C'est ce qui est demandé aux responsables. Par quel processus est-ce que les responsables arrivent à cette compétence ? Comment est-ce que les responsables du temps du Nouveau Testament sont capables d'enseigner, de discerner et de réfuter l'erreur ? Eh bien, le texte biblique ne le dit pas. Et ça m'embête un peu, mais il ne le dit pas. Il laisse donc, me semble-t-il, la porte ouverte aux autodidactes, à celles et ceux qui se seraient formés au contact de la Bible, de lecture d'approfondissement et de l'Église. Le risque, pourtant, c'est que sans enseignement structurel et formel, on laisse subsister des angles morts, des lacunes, ou pire, des idées originales qui n'ont jamais été mises à l'épreuve des docteurs d'hier et d'aujourd'hui. Je trouve très triste d'entendre des instituts bibliques déployer un programme qui semble attrayant sans jamais y faire référence à l'histoire de l'Église. Nous venons pas de n'importe où, tu nous l'as rappelé, puis avant le réveil, il y a eu du lourd. Depuis le réveil, il y a eu du lourd. On ne peut pas faire sans l'histoire de l'Église, au risque parfois, sinon, de retomber dans ce qui s'apparente parfois à des hérésies. Je vous en donne une, sans citer le lieu de formation, mais il y a un lieu de formation évangélique qui prône une doctrine qui est celle de l'éternelle soumission de Jésus à Dieu. Éternel dans le passé, éternel aujourd'hui et éternel dans le futur. Dans l'histoire de l'Église, c'est ce qu'on appelle une hérésie, qui a été rudement combattue. Mais dans certains lieux de formation, cette hérésie, c'est un lieu de formation évangélique fondamentaliste, cette hérésie, elle est déployée encore. Parce qu'on ne tient pas compte, on ne veut pas tenir compte de l'histoire de l'Église depuis très loin. Ou parce qu'on veut absolument affirmer une position sur les questions de soumission qui sont discutables.
Cette position-là,
ouais. Ouais.
Je
te rappelle. C'est l'arianisme.
Ouais.
C'est l'arianisme. Merci, Eliott.
L'arianisme, voilà.
L'arianisme.
L'arianisme avait pignon sur rue à la faculté de théologie de Genève à l'époque du réveil, paraît-il. Ouais. J'ai lu, j'y étais pas, mais c'est ce que j'ai lu. Et c'est vrai que c'est ce genre de choses, quand on le sait, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas à la faculté, j'espère pas. Mais voilà. Et c'est des choses, il faut les savoir de manière à pouvoir les combattre.
Ouais.
Et là, combattre ça, ben c'est vrai que le Seigneur, disons, Dieu. Mais il y a autre chose. Voilà.
Donc il nous faut mettre à l'épreuve les docteurs d'hier et d'aujourd'hui. Il faut les mettre à l'épreuve. Et c'est justement, je trouve, l'intérêt des instituts bibliques, des facultés de théologie évangélique, protestante, c'est de mettre à l'épreuve les docteurs d'hier et d'aujourd'hui. L'enseignement y est structuré. L'enseignement tient compte de la richesse de la pensée théologique, normalement jusqu'au siècle passé. On est obligé d'étudier un certain nombre de matières qu'on n'aurait pas spontanément choisies. On est confronté à des enseignants et à des étudiants qui ne sont pas directement issus de son propre milieu. On acquiert une vision plus complète, plus générale. Et puis on aboutit à un diplôme. Alors bien sûr qu'un diplôme ne dit pas tout de son détenteur ou de sa détentrice, de son caractère, de son aptitude même au ministère, mais le diplôme, il atteste que le diplômé a été capable de suivre un cursus avec de l'application et d'assimiler l'essentiel de l'enseignement qui lui a été dispensé. On dit, dans d'autres domaines, passe d'abord ton bac, passe d'abord ta matu, passe d'abord ton CFC. C'est une exigence pour tous les jeunes qui aspirent à des postes de responsabilité. Et je crois qu'on peut considérer que dans nos sociétés européennes modernes, le diplôme est un passage obligé pour tout. Alors je sais que des sociétés de la tech recrutent parfois sur d'autres critères. Si elles estiment que la personne a la capacité intellectuelle requise, la motivation, l'aptitude à s'insérer dans une équipe. Mais, en général, le diplôme est un préalable indispensable. De même, suivant les unions d'église, on laissera la porte au pasteur responsable ayant suivi peut-être un parcours atypique où on se contentera d'une formation en institut biblique ou encore on exigera une formation universitaire. Pour moi, un des critères devrait être que le futur pasteur, le futur responsable, doit être en adéquation avec les attentes de son Église, en adéquation avec le niveau d'instruction de ses membres, pour les comprendre, pour répondre à leurs questions, pour les conduire plus loin, être en adéquation. Parce que tout ne va pas se faire au cours de la seule prédication. Prédication, on sait, elle doit s'adresser au plus grand nombre, elle doit être facile à enfiler. Mais dans des entretiens personnels ou lors de cours de formation plus spécifiques, le responsable, il aura besoin de temps pour faire appel à toutes les ressources de sa formation, que ce soit pour apaiser des doutes ou pour armer les siens en vue d'un témoignage intelligent. Il n'aura échappé à personne que l'enseignement apparaît à plusieurs reprises dans les passages qui évoquent les dons que Dieu fait à son Église. L'enseignement, c'est le don que Dieu fait à son Église qui apparaît le plus dans les listes de dons. Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4 et 1 Pierre 4. Je crois, moi, et ça n'engage que moi, que l'accent de l'Écriture, quand elle parle de l'enseignement, porte davantage sur le cadeau que Dieu fait par grâce que sur une aptitude ou un talent permanent dont une personne bénéficierait en le recevant. Mais quoi qu'il soit, le don d'enseignement doit être mis au service de Dieu et de l'Église. Rien n'empêche qu'un talent inné ou un talent acquis ne soit perfectionné par la pratique et par la formation. En tous les cas, être capable d'enseigner, être capable de discerner, être capable de réfuter l'erreur, c'est une exigence de la Bible pour des responsables laïcs comme pour des pasteurs professionnels. 1 Timothée 5, verset 17, indique que tous les responsables ne se consacrent pas prioritairement à l'enseignement. Ils peuvent faire d'autres choses. Mais si les responsables n'ont pas un minimum de formation, s'ils n'ont pas un minimum de compétences dans le domaine de l'enseignement, ils courent le risque de compromettre à la longue l'intégrité théologique de l'Église jusqu'à mettre en danger son existence même. Ça va ? Paul Robert, avec le micro.
Absolument d'accord donc avec ce que tu viens de dire. Mais il ne faut pas oublier qu'un responsable n'est pas tout seul. Dans le sens qu'il doit être capable de réfuter l'erreur, par exemple. Mais ça peut être des fois quelque chose de difficile. On peut le faire à deux, à trois. Et bien sûr, une église qui met le pasteur, par exemple, sur une sorte de piédestal où il tient, lui, la vérité, je l'ai entendu d'une ou deux personnes ici, le pasteur a raison, point final, eh bien, c'est dangereux. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de l'équipe. Et je trouve ce point-là, mais la formation, alors je suis absolument d'accord. Maintenant, encore un deuxième point, on parle, par exemple, des prophètes. le prophète est un don qui est donné à l'Église, mais je pense qu'une personne peut être prophète parce que vraiment elle a reçu ce don et le pratiquer dans la communauté. Et puis tu peux avoir un don de prophétie qui t'est donné une fois à un moment donné, qui n'est pas nécessairement un don que tu exerces tout le temps.
Absolument.
Voilà, c'est
absolument.
Et pour l'enseignement, je pense, ou la réfuter l'erreur, je pense à une chose. T'as coup peut-être donner à l'un des membres une parole, que ce soit n'importe où, dans l'église ou ailleurs, pour réfuter quelque chose qui a été dit. Là ça ne va plus. Voilà.
Ouais.
Mais c'est l'équipe. Je pense beaucoup à l'équipe. Sinon, pauvre responsable.
C'est pour ça que j'ai introduit en disant Camérin, équipe pastorale et équipe du conseil travaillaient ensemble. Et je peux vous dire que sur certains défis théologiques considérables, le conseil en parle. Parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer l'un ou l'autre au charbon en lui disant ben, « toi, va dire ça », c'est l'idée qu'on soit ensemble. Et des défis, on n'en manque pas. Mais il ne s'agit pas d'envoyer un responsable, que ce soit le pasteur, le président, un responsable de groupe au charbon en lui disant « allez, débrouille-toi avec ça maintenant ». Et dans ce que j'ai pu lire de l'histoire de Mérin dans les PV et tout ça, vous avez eu, bien avant que j'arrive, affaire à des défis considérables au niveau éthique, considérables. Et vous avez, moi je suis admiratif de ce qui a été déployé à certains moments clés pour répondre à ces défis éthiques. Et personne n'était seul au combat. Troisième point, la responsabilité. La responsabilité. La responsabilité du pasteur, du conseiller, du responsable d'un service ou d'un autre. Dans la définition même de l'épiscopos, l'évêque, le dirigeant. Alors aujourd'hui on dit le leader. J'ai vraiment de la peine avec ce mot. Vraiment, vraiment. J'aime bien le responsable, j'aime bien le serviteur, j'aime bien le dirigeant éventuellement. Le leader, j'ai un peu plus de peine. Mais il reste que la notion d'une responsabilité exercée, du rôle d'une direction assumée, existe dans le Nouveau Testament. Les responsables exercent une responsabilité, un rôle de direction. Et cela se confirme si on se réfère à quelques expressions, je vous cite en vrac, vos conducteurs, obéissez à vos conducteurs spirituels, vos conducteurs, notion de direction. Pour ces conducteurs, il y a cette idée de conduire le troupeau, c'est une notion de direction assumée, d'une responsabilité. On pourrait tenir compte aussi de ce que Paul dit à deux reprises, du don de présidence. Le don de présidence, il faut être très clair, ce n'est pas la capacité à bien conduire un culte. Ça, c'est une version hyper moderne de définir le don de présidence. Le don de présidence, ce n'est pas quelqu'un qui arrive à bien gérer le déroulement du culte. Le don de présidence, sous la plume de l'apôtre Paul, c'est de la gouvernance, pour utiliser le mot direct. Être un bon président, c'est être un bon gouverneur. Une bonne gouvernante. Et cette capacité à conduire les autres, à donner une direction, à prévoir, à organiser, eh bien, tous les responsables ne l'ont pas au même degré. Mais une absence complète de direction, de capacité de direction, serait, à mon avis, rédhibitoire pour être responsable. Ce n'est pas seulement la connaissance de l'écriture, la piété ou la gentillesse qui font de quelqu'un un leader, un épiscopos, un dirigeant, un évêque. Ce n'est pas juste quelqu'un qui connaît bien la Bible, qui a une bonne piété ou qui est gentil. Mais c'est sa capacité à prendre des décisions qui entraînent l'adhésion d'un groupe, que ce groupe soit un groupe de maison, un groupe de travail ou une église. Dans une situation pionnière, comme nous avons connu, nous, en France voisine, dans une situation pionnière, généralement, un missionnaire, un pasteur, un planteur, est pressé de faire avancer le projet et de nommer des responsables. Mais, dans une église plus établie comme la nôtre, on a du temps. En dehors de l'aptitude à enseigner, en dehors de l'aptitude à réfuter l'erreur et peut-être aussi la question de l'hospitalité, il est frappant de voir que toutes les qualités que l'apôtre Paul exige, attend d'un responsable, que ce soit un Timothée ou un Tite, sont en fait celles que nous attendons de la part de tous les chrétiens, de toutes les chrétiennes, à part l'aptitude à enseigner et à réfuter l'erreur. Parce qu'il ne viendrait à l'idée de personne d'affirmer que le chrétien de base, comme on dirait, peut être violent, ivrogne, esclave de l'argent, mais pas le responsable. Nous pourrions même aller jusqu'à dire que les philosophes stoïciens prônaient les mêmes idéaux de sobriété et de modération, à l'exception de la sainteté que Paul évoque. Et je suis frappé de voir que quand Paul parle des qualités d'un responsable, jamais il ne cite l'amour dans ses vertus. Jamais. Cela revient peut-être à dire très simplement que le responsable doit être un chrétien, une chrétienne, respecté dans l'Église, respecté dans sa famille et respecté dans le monde. Respecté et capable de diriger et d'enseigner. Ça va ? Ok. Alors quelques mots encore et je finirai avec ça. Sur la question de l'autorité des dons et des ministères. Lors du premier atelier biblique, très rapidement, on a parlé de l'esprit de service. L'esprit de service. L'esprit de service, il doit caractériser la vie d'une église. Il doit caractériser l'implication, l'engagement de ses responsables. Mais j'y reviens juste pour évoquer un problème que pose l'esprit de service. Et le problème que pose l'esprit de service, c'est celui de l'autorité. Quelle autorité peut avoir quelqu'un qui est le serviteur ou la servante? Quelle autorité? Jésus-Christ, l'exemple, n'avait aucune autorité officielle. Aucune. Il n'avait aucun diplôme. Mais sa personne, sa manière d'être, son enseignement, ce qu'il faisait, sa cohérence, imposait le respect à ceux qui le connaissaient le mieux. Son autorité se dégageait de sa personne, pas du poste qu'il occupait, ni de la reconnaissance des autres. Et chez nous, dans nos églises, pas à Mérin forcément, hein, chez nous, dans nos églises évangéliques, il y a parfois un décalage entre ce que nous sommes et la place que nous occupons. Dans tel cas, la personne a des qualités certaines, mais elle n'est pas reconnue. On ne veut pas de ses dons. On pense que ses qualités menacent les responsables en place. Ça arrive, ça, hein ? C'est un des défis principaux qui a été noté aujourd'hui par la Fédération des instituts bibliques européens. C'est la difficulté que leurs étudiants formés rencontrent en rejoignant leur église d'envoi. Ils sont très souvent considérés comme une menace. On ne les veut pas. Dans un autre cas, la personne a une place, voire un titre, un ministère reconnu, mais voilà que sa vie et ses qualités ne sont pas à la hauteur. Cette personne va dépenser beaucoup d'énergie à maintenir son autorité d'une manière artificielle pour garder sa place. J'en ai rencontré dans mon service pastoral, dans l'église où nous étions avant. Si le décalage entre l'autorité naturelle et l'autorité officielle est trop important, eh ben je peux vous dire que les églises passent par des moments sacrément difficiles. Alors il serait facile, mais assez juste, de dire que l'autorité d'un responsable d'église vient de Dieu. Mais concrètement, comment est-ce que cette autorité lui est dévolue? L'autorité, ce n'est pas quelque chose dont on s'empare par la force. Pour Jean Calvin et John Wesley, l'autorité reposait sur le consentement donné. Le consentement donné. Dans le cadre d'une église pionnière, c'est la vie et l'enseignement du pionnier qui impose le respect. Comme lorsque Paul défendait son ministère auprès des Corinthiens. Un pionnier. Mais dans une église établie, comme la nôtre, l'autorité, elle doit être reconnue par l'église, par les responsables en place, par un vote des membres, suivant ce que prévoient les statuts d'une église. Et dans un esprit de soumission mutuelle, les responsables se soumettent à l'Église et l'Église se soumet à ses responsables. Du consentement mutuel. Donc, quand on parle d'autorité, l'autorité, mes amis, elle ne se décrète pas. Elle se mérite. Elle se mérite par le comportement, par l'engagement, par l'humilité, par l'esprit de service et par la valeur de l'exemple. Mais elle ne se décrète pas. De plus, l'histoire de l'apôtre Paul montre aussi qu'elle n'est jamais acquise définitivement, l'autorité. À tout moment du ministère, elle peut être contestée, l'autorité. Et la façon de répondre à cette difficulté de la contestation contribuera soit à affirmer une saine autorité, soit à la mettre encore plus en cause. En disant, mais c'est pas possible, il est abusif. Elliot.
Est-ce qu'on a besoin d'un don pour contester? Ou est-ce que c'est genre, selon toi, est-ce que c'est un vote de l'Église ou une personne qui peut contester? S'il y a un don, ça fait genre parole d'autorité ou un truc dans le genre?
Je pense que la contestation, comme l'autorité, il me semble qu'elle provient d'un consentement donné. Une contestation qui ne viendrait que d'une personne ou d'un petit groupe de personnes, elle doit être interrogée par la communauté. Pour moi, c'est dans ces moments-là que se vit intensément la vie de la communauté et qu'on voit qui sont les faiseurs de paix. Parce que des fois, la contestation, elle a sa place. Hein. On peut avoir, vous pourriez tomber, je pourrais devenir quelqu'un d'abusif. Qui aurait le droit de le dire? Comment ça se ferait?
C'est difficile, rien d'entendre dénoncer, c'est-à-dire les faiseurs de paix.
Ouais.
C'est qui les faiseurs de paix? C'est ceux qui osent dire ou c'est ceux qui n'osent pas dire?
Les faiseurs de paix.
Ouais.
C'est ceux qui osent dire quelque chose ou c'est justement ceux qui se taisent de peur de mettre de l'huile sur le feu?
Alors je crois que la recherche de la paix n'est jamais dans le silence, elle est toujours active, c'est ce que je crois, hein. Je crois à une paix qui se met en route, mais après il y a des formes, il y a le ton, vous êtes une église, il y a 60 ans d'expérience, vous savez, c'est pas toujours facile, des fois le faiseur de paix c'est celui qui dit, des fois le faiseur de paix c'est celui qui s'efface, je crois qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Je demande à Dieu de nous préserver de ces moments-là, hein, parce que c'est très dur quand ça se passe comme ça. C'est très dur pour tout le monde, hein, tout le monde en bave. Mais je crois qu'on voit la maturité d'une église dans sa capacité à exprimer un désaccord. Et je crois qu'une des richesses de l'église de Mérin, c'est d'avoir ce qu'on appelle les colloques, et puis de les avoir si possible... Aller au minimum deux fois l'an, mais plutôt trois quand c'est possible, et d'avoir des lieux dans ces colloques pour l'expression, d'avoir des ordres du jour qui arrivent à l'avance pour pouvoir, s'il le faut, en parler en aparté, d'avoir des lieux où on peut déminer ce qui doit être déminé. Ça sert aussi les ateliers bibliques, hein. Il y a des gens qui m'ont dit que ça ne servira à rien, cette série d'ateliers bibliques, on ne va rien apprendre. Peut-être. Mais des fois, juste le fait de dire un truc permet de déminer des problèmes qui pourraient se poser ailleurs. Ça va ? Paul Robert.
C'est une église parfaite dont tu nous parles là. Parce qu'un colloque, et je le sais, ouais, il faut oser s'exprimer devant ouais les autres. Surtout si on a une idée ou une contestation qui n'est pas tout à fait dans, pour tout le monde.
Ouais.
Enfin, que beaucoup de gens ne réagissent pas ou ne disent rien. Et le peur d'être marqué aussi, après de dire, oh, mais machin, ça y est, voilà, mais qui se lève pour dire un truc. Voilà, et après on a une sorte de bande sur le front. Mais on rigole, mais c'est vrai.
Mais t'as raison.
C'est vrai. Un colloque, c'est vraiment difficile. Pourquoi on nomme, par exemple, les anciens ou différentes choses, par secret, par petit papier ouais qui passe ouais. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être le seul endroit où je peux dire, tiens, je ne suis pas d'accord avec ouais telle personne. Ouais. Pourtant, on nous propose des anciens, le machin, le pasteur, tout le monde est d'accord. Puis toi, tu te dis, non, mais cette personne-là, elle n'a rien à faire là. Mais tu n'auras pas à le dire. Ouais, peut-être à la personne.
J'espère.
Moi, j'ai été eu une fois le dire à une personne.
J'espère.
Mais voilà. Mais le dire devant tout le monde. Ouais. Je ne suis pas d'accord que tel et tel soit devienne ancien. Enfin, on ne parle plus d'assemblée, on ne parle plus d'ancien. Enfin, voilà. Tu vois, je trouve que c'est difficile. Alors, faiseur de paix, oui. L'amour doit être là, présent. Mais le grand amour.
Oui, je pense qu'effectivement, enfin, mais l'amour, des fois, c'est aussi de dire la vérité, puis de mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Et pour l'avoir vécu précédemment, et Stéphane en est ouais témoin, quand tu viens dire en assemblée générale que c'est peut-être pas une bonne chose que le fils du pasteur soit dans le conseil avec son père, parce que tu as vu, effectivement, qu'il n'avait pas l'indépendance d'esprit nécessaire. Ben, puis que tu vois l'assemblée qui dit « Oh, mais il n'y a pas de problème. » Des fois, c'est rude. Et tu t'en prends pas mal dans la figure. Mais voilà, je crois que c'était juste et je ne regrette pas de l'avoir dit.
Ouais.
On aurait peut-être pu mieux le dire. Ou peut-être, voilà, mais je pense qu'il y a aussi des fois où il faut oser dire la vérité. On le voit avec les prophètes aussi. Hein,
ouais.
Ou Jésus qui va dire des choses qui ne plaisent pas. Hein, mais effectivement, oser le dire, il faut le travailler, ouais, puis
ça se travaille.
Il va avoir des fondements bibliques qui sont solides, sinon
oui
on se fait ramasser. Mais
je veux pas, comment dire, mettre sur un piédestal notre église locale, hein, mais 60 ans d'existence sans crise majeure à ma connaissance, ça montre un état d'esprit installé qui permet de dire des choses difficiles. Mais il y a un truc à valoriser. Peut-être qu'il faut le rappeler, ça. Il y a eu des processus, mais il n'y a pas eu de crise majeure. L'Église n'a jamais explosé. C'est ce que j'appelle une crise majeure. Et pour avoir connu une Église qui a explosé sur des questions d'autorité, en l'occurrence, ça laisse des traces pendant des années, des fois des décennies. Moi, j'entends des gens qui, dans une église, en étant ado, qui a connu une crise majeure entre deux pasteurs. J'étais ado, hein, j'ai 50 ans. Je devais avoir 13-14 ans. J'en entends parler aujourd'hui encore. Je veux dire, 37 ans plus tard, c'est à l'église La Servette. 37 ans plus tard, on en parle encore. Et je pense que mes propres enfants, leurs enfants, s'ils en ont un jour, entendront un jour parler de ce qui s'est passé pour nous à Ville-la-Grand, quand on nous a dit, cassez-vous, quoi. Donc il faut valoriser le fait que dans une église comme celle de Mérin, y compris quand il y a eu des choix difficiles à faire, parce que 60 ans, c'est pas tout a toujours été parfaitement, hein, il y a eu des trucs difficiles, mais c'est été suffisamment bien géré pour qu'aujourd'hui on ne dise pas, ouais, mais tu sais, l'église de Mérin, elle maltraite ses conseillers, elle maltraite ses pasteurs, elle maltraite son colloque. Non, non, il y a une habitude ici qui doit être valorisée. Je le dis encore, elle doit être valorisée. C'est un privilège. Ça va ? Je finis avec quelques mots sur le lien entre les dons et les ministères. Parce que je trouve que c'est une question délicate et je finis juste avec ça. Le lien entre les dons et le ministère. 1 Pierre 4, 10 à 11 fournit mon point de départ théologique. L'apôtre Pierre dit ceci, 1 Pierre 4, 10 à 11. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Chacun a reçu un don. Et les dons sont très divers, dit Pierre ici. Différents dons sont mentionnés en Corinthiens 12, Romains 12 et ailleurs dans le Nouveau Testament. Différents dons. Dans son livre qui s'appelle « Dons pour le service », Alfred Kuhn mentionne 21 dons différents. Mais moi, je ne vois aucune raison de limiter la créativité et la générosité de Dieu à seulement 21 dons. Quoi qu'il en soit, Pierre, lui, il parle des diverses grâces de Dieu, divers dons qui doivent être mis au service des autres. Et Paul insiste, lui, de son côté, que les dons vont toujours servir l'Église. Paul, il distingue schématiquement entre deux catégories de dons. Celui qui parle, celui qui sert. Et Pierre, après lui, fait la même chose. Celui qui parle, celui qui sert. Pour le culte, par exemple, quelques-uns vont parler trop longtemps, beaucoup d'autres vont servir le jour même ou avant, en jouant d'un instrument, en comptant les offrandes, en faisant le ménage, en assurant l'accueil ou le fleurissement. En semaine, d'autres dons vont se déployer. La miséricorde, par exemple, qui désigne l'aide matérielle aux plus démunis. Alors, c'est quoi la différence entre un service, un don et un ministère ? Nous sommes toutes et tous appelés à servir. Et nous accomplirons tous et toutes des services pour lesquels nous ne sommes pas spécialement qualifiés ou adaptés. Parce que la personne qui s'en occupe est malade, par exemple, parce qu'il n'y a personne d'autre, parce qu'on veut essayer pour voir, parce qu'on nous a recrutés pour faire face à une grande diversité de besoins et d'attentes. C'est normal, nous sommes, vous et moi, toutes et tous, des serviteurs et des servantes. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est le cadre général. Dans certains services, il y aura une bénédiction particulière. Nous-mêmes, nous serons particulièrement motivés ou nous aurons envie de nous former ou de nous perfectionner. Ceux qui sont au bénéfice de ce service vont bien le vivre. C'est une bénédiction quand les gens vivent bien un service qu'on rend. Ils seront bénis à leur tour. Les enfants seront attentifs. Les personnes avec des problèmes oseront s'ouvrir à nous. On nous redemandera peut-être pour prêcher. Quand cela se passe ainsi, on pourra probablement dire que nous avons telle ou telle aptitude, don, capacité, parce qu'on reconnaît que ça marche. Mais avoir un don, une capacité, une aptitude, ce n'est pas encore, à mon sens, un ministère. Un ministère, c'est un service reconnu. Il y a malheureusement des gens qui ont un don pour l'enseignement, par exemple, mais à qui je n'oserais pas confier de responsabilité. Pas ici à Mérin, hein, en général. Simplement parce que leur vie n'est pas en conformité avec l'Évangile. Mais ils ont un don pour l'enseignement. Mais dans leur vie, ça ne marche pas. Telle autre personne pourrait avoir un don de présidence, donc de gouvernance, de direction, mais il ne l'exercera pas dans l'Église, par exemple, parce que son travail ne lui laisse pas assez de temps disponible. Ça, c'est un des grands défis de notre temps présent. Des gens qui pourraient exercer un talent de gouvernance, mais c'est juste impossible avec leur emploi du temps par ailleurs. Un ministère, c'est donc un don, un service que l'Église reconnaît pour qu'il s'exerce régulièrement en son sein. Et autour de ces ministères reconnus, les églises sont en général vigilantes. Un ancien, donc un conseiller, une conseillère par exemple, c'est manifestement un responsable reconnu. D'après 1 Timothée et Tite, le responsable reconnu doit avoir une aptitude à enseigner, à exposer la parole de Dieu. Ça, c'est un don. Mais il est en même temps un épiscopos, c'est-à-dire un dirigeant gouvernant. Il aura là le don de présidence, de conduite, d'organisation, de planification, de vision à long terme. Et à côté de ces dons, sa vie personnelle et familiale est exemplaire. Pas parfaite, exemplaire. Il ou elle est disponible pour le travail de l'Église, et l'Église le reconnaît, la reconnaît donc, dans une fonction de pasteur, de conseiller ou de conseillère. Et ça, c'est un ministère reconnu. Alors je conclus. Qui détient l'autorité dans l'Église ? Jésus-Christ. Comment exerce-t-il son autorité ? Pas par le clergé, mais par l'ensemble de ceux et de celles qui sont membres de son corps. Pour reprendre le terme que Paul Robert avait utilisé, qui est un terme théologique, qui est très juste, c'est le sacerdoce universel. L'autorité s'exerce par celles et ceux qui sont impliqués dans l'Église, un sacerdoce universel. C'est l'ensemble du corps qui reconnaît ensuite ses responsables, qui reconnaît leurs dons, leur qualité, leur appel et leur ministère. Et ces responsables vont exercer leur autorité dans un esprit de service parce qu'ils savent qu'eux-mêmes sont soumis au grand patron, au divin chef, au souverain berger et qu'ils sont aussi soumis à l'Église. Il me semble que c'est la meilleure articulation possible pour composer avec les dons, les aptitudes et les ministères. Ça va ? Je m'arrête là. Des questions, des remarques, de la contradiction, témoignages complémentaires. Daniel n'a pas encore pris la parole, mais il va avoir besoin du micro.
Il marche ? Oui, il marche.
Il marche.
Je trouve très intéressant, c'est très dense ce que tu dis. J'adhère pratiquement à tout. Mais comme d'habitude dans les églises évangéliques, la partie don, quand on dit don, je pense à 1 Corinthiens 12, oui. On passe un peu à côté.
Oui.
Alors effectivement, il y a des ministères, il y a des services, il y a différentes choses. Et puis l'esprit ne peut pas être enfermé dans des catégories aussi simples. Parce que Dieu se révèle aussi par des songes, par des visions, par des tas de matières. Et si on revient sur le sujet, dans nos églises, c'est vrai que le 1 Corinthiens 12 est peu explicité, alors que le texte parle de don, on traduit par don ou par charisme, mais en fait le terme original c'est manifestation, et ça correspond bien à ce qui se passe dans 1 Corinthiens 12, c'est-à-dire que c'est des manifestations, c'est-à-dire que c'est pas lié à l'intelligence, mais c'est vraiment l'Esprit Saint qui se manifeste à un moment donné au travers d'une personne. Alors il y a effectivement des dons vocaux, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont communiquées par la voix, la parole. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la révélation. Il y a 3 dons aussi dans ce domaine. Et il y a des dons de puissance. Mais ça, c'est un petit peu les choses qu'on évite, quoi.
Alors, je
c'était bien de donner ce complément.
Merci Daniel, je peux prendre un engagement, c'est celui qui me tient très à cœur depuis longtemps, alors il faut trouver le moment pour le faire, mais d'avoir, j'espère, à un moment donné, une série de prédications, j'aimerais bien, sur cette question des dons. Mais merci.
Bon, j'avais eu le privilège avec une autre personne de l'Église ici de présenter cette étude, parce que, ouais. En fait, elle est toute prête, de présenter ça à la communauté plusieurs fois déjà, et au groupe de jeunes aussi, s'ils s'en rappellent.
Merci Daniel. Sylvain ?
Oui, sur le terme de ministère, il me semble que dans les églises un peu en général aujourd'hui, le mot il a un peu dérivé dans son emploi par rapport au sens qu'il a dans la Bible.
Oui.
C'est devenu le ministère, c'est devenu juste le ministère pastoral, puis il me semble que ce n'est pas le sens qu'il a, ouais, quand il est utilisé dans la Bible.
Oui, c'est beaucoup trop réduit. En tout cas, je pense que le ministère pastoral existe comme un ministère, mais ce serait trop réduit. Ouais. Ouais. Alors, la frai est quand même un peu plus large, en tout cas dans ce qu'on appelle les retraites pastorales de la frai. Il y a ce qu'on appelle, la frai propose ce qu'ils appellent des temps de ministère, où différents ministères s'exercent. Et je dois dire que j'ai été édifié plus d'une fois, pas toujours, mais plus d'une fois, par ces temps de ministère. Alors, c'est là où différents ministères, par exemple, un ministère de discernement pourrait s'exercer. Un ministère d'encouragement, moi j'avais été, personnellement, c'est ce qui m'a le plus touché, quoi. C'est vraiment des gens qui ont un ministère reconnu, pas juste un don, hein, mais un ministère reconnu pour encourager les autres. Par exemple, je pense que votre fils et Gaël ont un ministère évident d'encouragement. Par exemple. Enfin, moi, j'ai été très encouragé par ce que j'ai reçu d'eux. Et ça, c'est des temps, alors des ministères, moi, on est en pastoral, donc c'est malheureusement pas en église. Pardon, Paul Robert.
Mais quand tu as parlé de ministères reconnus dans l'église, là, juste, ouais, maintenant, avant, là, tu as dit, tu as reconnu les ministères reconnus, tu as cité les ministères pastoraux et d'anciens, enfin, de conseillers.
Au point. Minimum.
Voilà, alors ça, il faut le dire. Parce que je pense qu'il y a des ministères d'évangélistes, des ministères de présidence, ouais, dans le sens que tu le disais, etc., qui peuvent être aussi reconnus, ouais, ou de prophètes, ouais, ou d'autres choses qui peuvent être reconnues dans l'Église. Ouais. Alors justement, comment les reconnaître ? Et c'est là que je reviens à ma première question. Comment l'Église reconnaît des ministères, comme tu dis, qui s'exercent sur un certain temps ? Ah bon, on va faire appel à tel et tel,
ouais,
ou à madame tel, parce qu'elle a un ministère d'écoute, ouais, un ministère de ceci, ou il a cela, etc. Ouais. Ou bien, tu parlais par exemple dans le groupe de conseil, vous aviez des grands sujets de direction par rapport à l'Église et tout. Tu vois, mm-hmm. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des ministères dans l'Église, ou des personnes dans l'Église qui pourraient une fois être adjoints à ces gens-là, à ces ouais, personnes? Ou est-ce qu'il y a une sorte de secret du ministère ?
Non.
Tu vois ? Non, mais c'est des choses qu'on peut aussi ressentir. Et là, quand tu dis, ouh là là, on a affaire à des objectifs, des décisions fondamentales et tout, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et on n'en parle pas. Au colloque, on dit, tout va bien. Alors, quels sont ces... Tu vois, je trouve que là, il devrait y avoir un partage et des ministères de personnes qui pourraient être reconnues pour aider, écouter, aller.
Alors, vas-y, Sylvain. Merci.
Oui, quand même, quand on a parlé de secret, il s'agit uniquement de ce qui est secret pastoral, c'est-à-dire s'il y a un partage au sujet d'une difficulté personnelle, d'une personne, d'un couple ou quel que soit, alors là, c'est des choses qui sont strictement confidentielles. Mais si c'est une réflexion sur la vision de l'Église, c'est bien évidemment pas confidentiel, c'est le genre de choses
qu'on partage
en particulier dans les colloques, où voilà, c'est pas, il y a rien de secret là-dedans. Alors après, on peut avoir une difficulté ou une insuffisance dans la communication, mais il y a vraiment pas de secret autour de ce genre de choses.
Je crois vraiment que le discernement, je t'ai coupé la parole, Christophe. Je crois vraiment que le discernement, il doit s'exercer particulièrement pendant ce temps de sollicitation, désignation en vue du renouvellement du Conseil. On va bientôt y être, hein, en parenthèse. Donc dans une année, le Conseil sera renouvelé. Donc là, incessamment sous peu, un GRC va être formé. Et donc déjà là, je trouve qu'il y a une vraie sagesse, discernement d'Église à exercer, et puis après tout au long du processus. Après, quand on parle, par exemple, je donne un exemple, je ne crois pas que je trahis aucun secret, mais des fois on est inquiet, d'abord on a été inquiet de voir qu'il arrive qu'on a des dimanches où les rangs sont très clairsemés. Je ne trahis pas de secret en disant, le conseil voit, entend, se pose des questions, puis on est là dans un processus de réflexion. C'est pas en une heure, un jeudi soir au conseil, quand on a encore une liste longue comme le bras à traiter, qu'on va trouver la solution. Donc on engage une réflexion qui probablement, à un moment donné, viendra aussi devant le colloque. Ou dans d'autres domaines, sur des ministères spécifiques, vous vous rappelez qu'il y a 2-3 ans de cela, sur la question de l'enfance, alors c'était un one shot, on aurait pu, dû faire mieux, mais on a fait appel à un ministère spécialisé avec Joanne Rochabaché. Donc je pense qu'on, en tout cas il n'y a pas de secret et il n'y a pas de fermeture, on doit probablement travailler mieux la communication, mais en tous les cas, encore une fois, cette vie d'église, c'est une vie qui concerne tout le monde. Et là, je sais que je m'adresse à des gens qui sont déjà convaincus, donc des fois je me sens un petit peu radoteur en vous le disant à vous. J'aimerais qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui l'entendent, vous voyez ce que je veux dire. Ça va? Ouais. Ah oui, bah oui. Mais alors voilà, par exemple, comment on fait? Alors, est-ce qu'un flyer fera qu'on aura une participation plus massive?
Tu as quelque chose dans ta cuisine. Ah oui, ce soir, il y a ça. Moi, je suis pas toujours sur mon
micro.
Non, non, mais bon, là,
c'est pas... Sors la grosse voix. Vas-y, Jean-Pierre.
Oui, il y a une phrase que j'aime bien du pasteur québécois Denis Morissette. Ceux qui me connaissent, voilà. Et c'est une phrase assez simple qui dit « L'Église est là pour sauver les perdus et on doit soigner les sauvés. »
Ouais.
Et donc, je me dis, quand il y a un endroit où les gens... une bonne adresse pour manger ou un bon docteur, ça doit se propager. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Et malheureusement, ces personnes-là, c'est justement ceux qui devraient être sur les chaises, peut-être. Donc, je pense que un des ministères, c'est le soin. Mais je sais pas très bien. Ça passe par l'écoute, comme tu es. Une excellente personne qui écoute. Et puis, si vous voulez rajouter autre chose, voilà.
Alors, je serais incapable de répéter la délicatesse de Jean-Pierre. Non, mais Jean-Pierre discernait, observait la nécessité dans une église d'avoir de la place à la fois pour atteindre les non-convertis et pour prendre soin de ceux qui sont blessés. En citant un auteur apprécié, Denis Morissette, moi je pourrais faire référence ici par exemple à Philippe Yancey, qui compare l'Église autant à un hôpital qu'une caserne. Et je pense que c'est intéressant de se poser, si on disait, ok, les gars, ils ont été inspirés dans leur réflexion, que ce soit Morissette ou Yancey et d'autres, hein, si les gars ont été inspirés à quelque part par leur Seigneur dans leur réflexion, puis qu'on prenne leur grille de lecture, ça vaudrait des fois la peine de se dire, ok, comment est-ce que notre église locale de Mérin peut être autant un hôpital qu'une caserne?
Ouais.
Qui va être une caserne? Alors, il y aura peut-être d'autres images plus fines à adopter aujourd'hui, mais je trouve intéressant. C'est l'évêque de New York, l'évêque Temple, hein, qui disait que l'Église est la seule société coopérative au monde qui n'existe pas pour le bien de ses membres. Je trouve ça excellent. Mais comment est-ce qu'une Église, concrètement, n'existe pas que pour le bien de ses membres ? Très concrètement. Pas que. Alors lui, il dit que. Moi, je dis pas que. Parce que je rejoins Jean-Pierre sur le fait qu'aujourd'hui, si je regarde mon emploi du temps, l'essentiel de mon emploi du temps, l'essentiel est d'accompagner des gens qui ne vont pas super bien. Et ça, c'est ce qu'on voit encore. Parce que nous ne sommes pas sortis indemnes du Covid. Attendez un peu les chansons, s'il vous plaît.
Oui, moi, j'aimerais dire quelque chose parce que dans la vision de créer un centre pour accompagner les gens en difficulté, ouais. J'ai d'abord pensé que je pourrais atteindre les non-chrétiens. Donc, en créant un centre à l'extérieur de l'Église. Ouais. Et en quelque part, un peu discret, c'est-à-dire que les gens puissent venir sans se sentir épiés. Oh, il y a tel qui va à tel endroit, ou qu'est-ce qu'il doit avoir, etc. Bon. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ceux qui en avaient le plus besoin, c'était justement des gens qui étaient chrétiens.
Ben ouais.
Et qui étaient blessés dans l'Église.
Ben ouais.
Ben, et ben voilà, c'est comme ça que j'ai pris mon pied de. Excusez-moi, c'est pas du tout.
Merci.
Méprisant pour les blessés. Mon pied pendant 20 ans. À travailler parmi des gens comme ça.
Ouais.
Je ne les ai pas choisis, ils sont venus. Et je suis quelque part un petit peu orphelin maintenant, parce que, alors je ne me plains pas, je ne suis pas en train de dire que j'aimerais que vous me reconnaissiez à quoi que ce soit, simplement je me sens orphelin parce que j'ai plus des gens qui savent où aller avec moi. Ils savent où aller à Horizon 9, mais pas avec moi. Heureusement du reste. Moi je ne pourrais plus, mais quelque part je me dis mais comment est-ce qu'on peut créer des formes des formes de lieux où on puisse rencontrer les gens qui ont vraiment des besoins de guérison, des besoins d'écoute, d'accompagnement, d'écoute beaucoup. On parle beaucoup parmi les chrétiens. Alors, il faut évangéliser, bien entendu. Mais il y a aussi le don de l'écoute qui permet à des gens de se sentir accueillis et compris. Et on peut aller plus loin avec eux.
D'une part, je suis content que ce genre de ministère existe. Ouais. Mais d'autre part, je suis extrêmement triste que ce ministère doive exister.
T'as une solution ?
C'est tout ce que nous sommes en réalité. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous sommes. Nous sommes des gens souvent fracassés par la vie. Souvent. Et tant que l'Église est un lieu où les gens fracassés par la vie peuvent venir se recomposer, on est dans le juste. Le jour où on commence à les ostraciser, à les mettre à la porte, à ne pas les valoriser, eh ben on sera dans le faux. Ça, on est sûr. Le Seigneur Jésus, il a demandé de laisser venir à lui les petits-enfants et ceux qui étaient fatigués et chargés. Pas les bien portants, ceux qui s'en tirent tout seuls dans la vie, qui ont tout ce qu'il faut. Ceux-là, c'est bon, ils tracent leur route, ils ont besoin de personne, ils ont leur Tesla, tout va bien. C'est les autres qui ont besoin des soins du Seigneur et de l'Église. Et j'espère qu'on peut offrir encore ça. Et après, on va terminer.
Moi, je me dis qu'une des raisons qui fait qu'on a souvent des blessés dans les églises, comme on a souvent des blessés dans les familles, c'est aussi parce que c'est des lieux où on attend beaucoup. On attend énormément.
Tu dis dans l'Église ?
Dans l'Église,
ah ouais,
on a un idéal extrêmement élevé de ce que c'est que la communauté, que l'amour. Et puis on est des êtres humains et on n'y arrive pas. Et wow. Voilà, donc c'est dans un sens c'est triste, mais en même temps, voilà, ça fait partie de notre humanité. Donc c'est bien qu'on sache aussi se soigner quand on s'est blessé. Voilà.
Ouais. Daniel.
Il y a quelques temps, même pas mal d'années, on avait présenté ces églises américaines comme Willow Creek, qui sont effectivement basées sur un accueil inconditionnel, ouais, et un travail social. Alors, ouais. C'est vraiment une grande question. Et on voit aussi que ces églises qui font tout ce travail font quelque chose d'extraordinaire. Il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui viennent. Mais ça demande des ressources, c'est inimaginable, les ressources qu'il faut. Il faut avoir des gens qui sont prêts même à faire à manger aux autres, qui sont prêts à visiter, qui sont prêts à réparer les voitures, qui sont prêts à aussi former, évangéliser. Enfin, c'est quelque chose de très différent. On n'est pas, en tout cas, pour le moment, dans ce créneau, mais c'est vrai qu'on pourrait l'être.
Mais moi, je crois qu'à notre mesure, imparfaitement, nous le sommes. Mmh. Il y a tellement de personnes ressources. Mmh. Je crois que je ne me suis jamais retrouvé en 6 ans seulement, hein, mais dans une situation où je me suis dit, purée, pour ça que je ne sais pas faire, je n'ai pas le temps de faire, que, à qui je peux m'adresser, je ne sais pas. Mmh. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Mmh. Mais c'est un truc, je crois, encore à valoriser, ça aussi.
Bon, Hillsong fait un peu ce travail, mais il faut voir aussi l'usine à gaz qu'il y a derrière.
Je pense qu'Hillsong est vraiment une église du dimanche, mmh, contrairement à Willow Creek. Mmh. Qui n'est pas une église du dimanche, hein, qui est une église de semaine, puis le dimanche, on se retrouve. Mais voilà, on va peut-être s'arrêter parce qu'il est quasiment bientôt 22 heures. Dans 15 jours, on parlera de ce qu'on peut, comment on nourrit une église et de la question du secret professionnel. Il me semble juste, une fois, de parler dans l'église de ce que représente légalement le secret professionnel. Et puis, dans un mois, nous finirons la saison avant le mois de septembre, mais avant l'été, disons, on finira la saison avec Thierry et Rebecca Terra, et on réfléchira ensemble un petit peu à la question de l'évangélisation. Je leur ai demandé de plancher avec moi sur le sujet. Ça, c'est pour les deux dernières rencontres avant l'été. Merci pour votre participation. Si quelqu'un souhaite les notes, comme dit, elles sont à disposition pour le reste. Que le Seigneur vous garde et vous accorde une bonne nuit de repos. À bientôt. Non.